Chapitre 26. De hautes attentes. En traversant le terrain communal à l'herbe jaunie de Champ des Mondes avec Egwen, Elaine eut le cœur serré par tout ce qui avait changé. Sa compagne, elle, paraissait assommée. Quand elle était apparue en Telaran Riod, la chair d'Amerline, une longue natte tombant dans son dos, portait une robe de laine ordinaire et de gros souliers à bourrons. Sans doute l'allure qu'elle avait lorsqu'elle vivait à Deux Rivières, s'était dit Elaine. À présent, élégamment tenue par une résille, les cheveux noirs d'Egwen tombaient sur ses épaules, et elle portait une robe bleue brodée de fils d'argent, aussi somptueuse que celle de la future reine. À ses pieds, de fines chaussures remplaçaient les godillots. Pour maintenir en l'état sa robe d'équitation verte, et éviter ainsi d'embarrassantes altérations, Elaine devait se concentrer. Les changements vestimentaires de son amie, à l'évidence, étaient volontaires. La fille héritière espérait que Rand serait encore capable d'aimer Champ des Mondes. Cela dit, ce n'était plus le village où Egwen et lui avaient grandi. Comme toujours dans le monde des rêves, les rues étaient désertes. Mais il s'agissait aujourd'hui d'une grande ville prospère où la plupart des bâtiments, parfois à trois niveaux, étaient en pierre et dotés de toits en tuiles de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Un sacré contraste avec les anciennes demeures en bois couronnées de chaume. Beaucoup de rues étaient pavées, du travail très précis d'artisans doués, et un grand mur d'enceinte, muni de tours de guet, assurait la sécurité des habitants, très fiers des grandes portes bardées de fer qui n'auraient pas paru déplacées à l'entrée d'une cité des terres frontalières. Au-delà de ces murs, on trouvait des moulins, plusieurs scieries, une fonderie et de grandes fabriques de textiles. À l'intérieur, les fabricants de meubles, les potiers, les tailleurs, les couteliers et les bijoutiers exerçaient leur art dans des boutiques aussi belles que celles de Kemlin, même si les biens proposés ressemblaient plus à ce qu'on trouvait en Arad-Doman ou au Tarabon. L'air était frais, pas glacial, et on ne voyait pas trace de neige sur le sol. Au moins pour le moment. Ici, le soleil était à son zénith. Dans le monde réel, il devait faire encore nuit. En tout cas, Elaine l'espérait, parce qu'elle aurait volontiers dormi un peu avant de devoir se lever. Depuis quelques jours, elle se sentait épuisée. Tant de choses à faire en si peu de temps. Les deux amis étaient venus à Champ des Mondes parce qu'il semblait improbable qu'un espion puisse les y trouver. Troublé par la métamorphose de son village natal, Egwen s'était attardé. Quant à Elaine, Rand mise à part, elle avait ses propres raisons pour vouloir inspecter Champ des Mondes. Le problème, enfin un des problèmes, c'était le passage relatif du temps. Alors qu'une heure s'écoulait dans le monde réel, cinq pouvaient avoir filé en Telaran Riod. Hélas, l'inverse était tout aussi possible. Donc, à Kemlin, il pouvait déjà être midi. S'immobilisant la lisière du terrain communal, Egwen se retourna pour observer longuement le pont de pierre qui enjambait le cours d'eau et très bientôt la rivière, dont les eaux, en amont, jaillissaient d'une formation rocheuse avec assez de force pour renverser un homme. Au milieu du terrain communal, près de deux grands mâts fixés sur des socles de pierre, une grande stèle de marbre affichait en lettres d'or une longue liste de noms.
« Un monument aux morts »,
murmura Egwen.
« Qui aurait imaginé ça à Champ des Mondes ? Encore que... Un jour, Moiraine m'a dit qu'une grande bataille a eu lieu ici, pendant la guerre des Trollocs, à l'époque de la disparition de Manéthéren. C'était raconté dans les livres d'histoire que j'ai étudiés, »
dit Elaine, en regardant les deux mâts où ne flottait aucun étendard. Pour le moment, en tout cas. Ici, elle ne pouvait pas sentir Rand. Comme Birgit, il était présent dans sa tête, masse compacte d'émotions et de sensations, d'autant plus difficile à interpréter qu'il était physiquement très loin d'elle. Mais dans le monde des rêves, elle n'était pas en mesure de déterminer dans quelle direction il se trouvait. Le savoir ne changeait pas grand-chose, pourtant c'était rassurant. Il lui manquait tellement. Des étendards apparurent fugitivement en haut des mâts, juste le temps de battre une fois au vent. Ce fut assez, cependant, pour qu'Elaine aperçoive un aigle rouge volant sur Champ d'Azur. Non, pas un aigle rouge, mais l'aigle rouge. Un jour, alors qu'elle était dans le Champ des Mondes oniriques avec Nineveh, la fille héritière avait cru voir le même étendard. Peu après, Maître Nori lui avait remis les idées en place. Si fort qu'elle aimât Rand, si quelqu'un dans son village natal tentait d'arracher Manéthéren à l'oubli, elle devrait prendre des mesures radicales, même si ça lui brisait le cœur. Car cet étendard et ce nom avaient encore assez de pouvoir pour menacer Andor.
Baud Cotton et les autres novices de Deux Rivières m'avaient parlé de changement,
fit Egwen pensive.
Mais je n'avais pas imaginé ça.
Autour du terrain communal, presque toutes les maisons étaient en pierre. Non loin des fondations d'un grand bâtiment, un immense chêne poussant au milieu, se dressait une petite auberge.
mais sur l'autre flanc des fondations, ce qui semblait devoir être une auberge beaucoup plus grande était en cours de finition. Au-dessus de la porte, une enseigne annonçait que l'établissement s'appellerait « Les Archers ».
« Je me demande si mon père est toujours bourgmestre »,
continua Egwene.
« Et si ma mère et mes sœurs vont bien. Je sais que tu remettras l'armée en mouvement demain, si nous ne sommes pas déjà demain. Mais une fois arrivé à Tarvalon, tu auras sûrement quelques heures pour venir ici. »
Les portails facilitaient vraiment la vie. Si elle trouvait quelqu'un de confiance, Elaine pourrait envoyer un émissaire à Chandemonde, à condition de pouvoir se passer d'un allié fiable.
« Elaine, j'ai dû faire fouetter des femmes avec qui j'ai grandi, parce qu'elles refusaient de croire que je suis la chair d'Amerlin. Et d'autres qui le croyaient, mais qui ne pouvaient pas violer les règles parce qu'elles m'ont toujours connue. »
L'étole aux sept rayures apparut soudain sur les épaules d'Egwene. Dès qu'elle s'en aperçut, l'accessoire vestimentaire se volatilisa.
« Je doute de pouvoir revenir ici en tant que chair d'Amerlin.
C'est trop tôt. »
« La roue tourne, mon ami, et tout change. Je dois m'y habituer, et je le ferai. »
Egwene parlait un peu comme Siouan Sanche, à l'époque où elle était encore à Tarvalon, juste avant que tout soit bouleversé. Étole ou non, Egwene Alvéré avait l'envergure d'une chair d'Amerlin.
Elaine, tu es sûre de ne pas vouloir une partie des soldats de Gareth Bryne? Au moins pour défendre Kimlin? »
En un éclair, les deux femmes se retrouvèrent en train de s'enfoncer jusqu'aux genoux dans la neige. Sur les toits, l'épaisse couche de poudreuse laissait penser à une récente tempête. Habituées aux bizarreries de Tel Aran Riod, Elaine et Egwene refusèrent de se laisser atteindre par le froid. C'était plus simple qu'imaginer des manteaux et des vêtements plus chauds.
« Personne ne m'attaquera avant le printemps, »
répondit la fille héritière. Les armées ne se déplaçaient pas en hiver, sauf quand elles pouvaient voyager comme celle d'Egwene. Sinon, la neige puis la boue au moment de la fonte étaient de trop gros obstacles à une marche rapide. Les soldats des terres frontalières s'étaient sans doute mis en mouvement, parce qu'ils croyaient que l'hiver ne viendrait pas cette année.
« De plus, une fois à Tarvalon, tu auras besoin de tous tes hommes. »
Très logiquement, Egwene n'insista pas. Malgré un recrutement intensif durant le mois écoulé, Gareth Bryne n'avait pas encore la moitié des effectifs qu'il estimait nécessaires pour prendre Tarvalon. Selon Egwene, il était prêt à commencer avec ce qu'il avait, et ça restait inquiétant.
« J'ai de dures décisions à prendre, Elaine. La roue tisse comme ça lui chante, mais c'est moi qui dois trancher. »
Cédant à une impulsion, Elaine avança lourdement dans la neige, rejoignit son ami et l'enlaça. À cet instant, la poudreuse se volatilisa, laissant simplement un peu d'humidité sur l'ourlet de leur robe. Déséquilibrées, les jeunes femmes titubèrent et manquèrent s'étaler.
« Je suis sûr que tu prendras la meilleure décision.
» dit Elaine, sans pouvoir s'empêcher d'éclater de rire à cause des fantaisies climatiques du monde des rêves. Egwene ne partagea pas son hilarité.
« Je l'espère. Parce que dans tous les cas, des gens mourront à cause de moi. »
Elle tapota le bras d'Elaine.
« Mais tu connais ça, pas vrai ? Bon, nous tombons toutes les deux de sommeil. Mais encore une chose. Si Rand vient te voir, tu dois me répéter ce qu'il te dira, surtout s'il te donne quelques indices sur ses plans et l'endroit où il compte aller. Je te dirai tout ce que je pourrai, mon ami. »
Elaine se sentit un peu coupable. Elle avait presque tout dit à Egwene, sauf que Min, Avienda et elle s'étaient liées à Rand. Les lois de la Tour Blanche ne proscrivaient pas ce qu'elles avaient fait. Grâce à un prudent interrogatoire de Vanden, les trois complices en étaient à présent certaines. Était-ce pour autant permis? Rien n'était moins sûr. Pourtant, comme l'avait dit devant Elaine un mercenaire d'Arafel recruté par Birgit,
« Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. »
On eût presque dit un des fameux dictons de Ligny, n'était que la nourrice ne se serait jamais montrée si libérale.
« Rand te tracasse beaucoup, Egwene. Beaucoup plus que d'habitude, je veux dire. Pourquoi? J'ai de bonnes raisons. Mes agents me rapportent des choses inquiétantes. Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, bien sûr. Mais si ça s'avère... »
La chair d'Amerlin dans toute sa splendeur. Une petite jeune femme mince qui semblait aussi résistante que l'acier et aussi grande que bien des montagnes. Et quelle impressionnante détermination.
« Je sais que tu aimes Rand, Elaine. Moi aussi, je l'aime. D'une autre manière. Mais je ne m'épuise pas à sauver la Tour Blanche pour qu'il puisse enchaîner les Aes Sedai comme des damanes. Dors bien et fais de beaux rêves, Elaine. De jolis songes. C'est un trésor que bien des gens sous-estiment. »
Sur ces mots, Egwene disparut, en route pour le monde éveillé. Un moment, Elaine fixa l'endroit où son amie s'était tenue. Qu'avait-elle voulu dire? Enchaîner les Aes Sedai, Rand? Ce n'était pas dans ses intentions,
ne serait-ce que par amour pour elle. Elle sonda la masse compacte et dure dans un coin de sa tête. Rand était très loin de là. Les veines d'or brillaient uniquement dans ses souvenirs. Non, il ne ferait sûrement pas ça. Plus perturbée qu'elle aurait voulu l'admettre, Elaine retourna dans son corps endormi. Elle crevait de sommeil. Hélas, dans le monde réel, le soleil était déjà levé. Depuis quand ? Elle avait des rendez-vous et une multitude d'autres obligations. Rêvant de dormir des mois durant, la fille héritière tenta en vain de tordre le cou au devoir. Une journée chargée l'attendait, comme chaque matin, mais bon. Quand elle ouvrit les yeux, plein de sable comme si elle n'avait pas dormi du tout, la lumière qui filtrait des fenêtres lui apprit que l'aube était passée depuis longtemps. Pourquoi ne pas rester sous les couvertures pour une fois ? Eh bien, le devoir. Avienda remuant dans son sommeil, Elaine lui flanqua un coup de coude dans les côtes. Si Elaine devait se lever, pas question que sa sœur reste au lit. Réveillée en sursaut, Avienda tendit la main vers le couteau posé sur sa table de chevet. Mais elle ne saisit pas l'arme.
« Quelque chose m'a réveillé, »
marmonna-t-elle.
« J'ai cru qu'un Shaido avait... Ah, regarde le soleil! Pourquoi m'as-tu laissé dormir si tard ?»
Laiel se leva péniblement et enfila son chemisier.
« J'ai le droit de rester avec toi, d'accord. Mais ça ne veut pas dire que Mona Ella m'épargnera la badine si elle me juge paresseuse. Tu as l'intention de te prélasser dans tes draps toute la journée ?»
Non sans grogner, Elaine sortit à son tour du lit. Essandé l'attendait déjà, devant la porte de son salon d'habillage. Sauf quand la fille héritière lui en donnait l'ordre, elle ne la réveillait jamais. Très lasse, Elaine s'abandonna aux soins presque silencieux de la domestique aux cheveux blancs. En s'habillant, Avienda compensa largement le mutisme des Sandé. Quand on se laissait vêtir par quelqu'un d'autre, lança-t-elle, n'avait-on pas l'impression de redevenir un bébé ? Et à force, n'oubliait-on pas comment faire pour enfiler des vêtements ? Depuis que les deux sœurs partageaient la même chambre, c'était chaque matin le même numéro. Et Avienda trouvait ça désopilant. Elaine resta coite, sauf pour répondre aux suggestions des Sandé sur ce qu'elle devait porter ou non. Quand l'ultime bouton de nacre fut fermé, elle se leva et s'étudia dans le grand miroir en pied.
« Et Sandé ? »
lâcha-t-elle, comme si de rien n'était.
« Les habits d'Avienda sont-ils prêts ?»
La jolie robe de laine bleue brodée de fils d'argent serait très bien pour la journée qui attendait Laiel. La servante rayonna.
« Toutes les belles tenues en soie avec dentelle de Dame Avienda ?» « Oui, madame. Brossée, lavée, repassée et rangée. »
Elle désigna les grandes armoires alignées contre un mur. Par-dessus son épaule, Elaine sourit à sa sœur. Avienda regarda les armoires comme si c'était des nids de vipères. Puis elle se hâta de nouer son fichu noir autour de sa tête. Quand Essandé se fut retiré, Elaine lança.
« Juste au cas où tu en aurais besoin. »« Bon, j'ai compris. »
fit Avienda en mettant son collier d'argent.
Plus de plaisanteries sur ton habilleuse.
Parfait. Sinon, je lui dirai de s'occuper de toi. Et ça, ce serait sûrement très drôle.
Avienda marmonna des aménités sur les gens dépourvus de sens de l'humour, mais elle ne demanda pas que tous les vêtements achetés pour elle par Elaine soient mis au rebut. Étrange, ça. D'autant plus que la fille héritière s'étonnait que Laiel n'ait pas procédé elle-même à ce nettoyage par le vide. Pour Avienda, le petit déjeuner préparé dans le salon proposait du jambon fumé au raisin, des œufs brouillés au pruneau, du poisson au pignon, du pain frais tartiné de beurre et une infusion saturée de miel. Pas du sirop, mais presque. Elaine, en revanche, prenait son pain sans beurre, mettait peu de miel dans son infusion et se contentait d'une bouillie de flocons d'avoine aux herbes, réputée excellente pour la santé. Quoique Mie n'ait pu dire à Avienda, elle n'avait pas le sentiment d'être enceinte. Hélas, Mie avait fait la confidence à Birgit, un jour où la championne, Avienda et elle, avaient un peu trop forcé sur le vin. Depuis, Birgit, Dailin et Réen Arfor insistaient pour qu'Elaine suive un régime adapté à une femme dans son état. Quand elle demandait une friandise aux cuisines, elle pouvait attendre jusqu'à la fin des temps. Et si elle y allait en personne, le regard désapprobateur des cuisinières l'incitait à repartir les mains vides. À dire vrai, elle ne regrettait pas vraiment le vin aux épices, les sucreries et autres délices dont elle devait se priver. Sauf quand Avienda se goinfrait de tarte ou de crème. Mais au palais, absolument tout le monde savait qu'elle attendait un enfant. Bien entendu, ça impliquait que nul n'ignorait comment ça lui était arrivé. Par bonheur, sans savoir avec qui. Si on oubliait qu'il savait et qu'elle savait qu'il savait, les hommes n'étaient pas trop embêtants. Les femmes, en revanche, sans le moindre souci de discrétion, elles se rangeaient dans deux camps, celles qui approuvaient et celles qui condamnaient. Les premières s'interrogeaient, sur l'identité du géniteur, et les secondes la regardaient comme une fille perdue. Alors qu'elle se forçait à avaler sa bouillie, pas si mauvaise que ça, mais le jambon d'Avienda et ses œufs au pruneau la faisaient saliver, Elaine se surprit à avoir hâte de souffrir de ses premières nausées, qu'elle pourrait malicieusement partager avec Birgit. Le premier visiteur de la matinée, à part Essende, tenait la corde auprès des femmes du palais pour le titre envié de géniteur du futur bébé de la future reine.
« Majesté, »
dit le capitaine Mellard en s'inclinant, son chapeau à plumes fendant l'air.
« Le premier clerc attend votre bon plaisir. »
Dans les yeux noirs de l'officier, on voyait clairement que les hommes morts de sa main ne venaient jamais hanter ses nuits. Bizarrement, l'écharpe de soie qui lui barrait la poitrine et la dentelle qui ornait son col et ses poignets lui donnaient un air encore plus dur. Alors qu'elle s'essuyait les lèvres avec une serviette, Avienda le regarda, imperturbable. Les deux gardes du corps qui flanquaient la porte d'entrée, elles, eurent l'ombre d'une grimace. En peu de temps, Mellard s'était fait la réputation d'avoir la main baladeuse dès qu'une jolie paire de fesses passait à sa portée. Beaucoup plus grave aux yeux des protectrices d'Elaine, il passait son temps à les accuser de nullité crasse dans toutes les tavernes de Kemlin.
« Pas de majesté, capitaine. Je n'en suis pas encore là, »
dit sèchement Elaine. L'essentiel, avec ce type, c'était de savoir le remettre à sa place.
« Comment se passe le recrutement de ma garde rapprochée ?»«
Nous n'en sommes qu'à 32, madame. »
Sans lâcher son chapeau, l'homme aux traits taillés à la serpe posa les deux mains sur le pommeau de son épée, une attitude décontractée peu appropriée quand on venait de lancer un majesté à une femme. Et son sourire ne collait pas non plus.
« Les critères de Dame Birgit sont très sévères. Peu de femmes peuvent y satisfaire. Donnez-moi 10 jours et je vous trouverai 100 hommes bien plus compétents qu'elle et qui vous chériront autant que moi. »
« Je crains de devoir refuser, capitaine. »
Elaine avait dû se forcer pour ne pas parler d'un ton glacial. À l'évidence, cet homme avait entendu les rumeurs sur sa paternité. Comme elle ne faisait aucun effort pour les démentir, croyait-il qu'elle le trouvait séduisant? Repoussant son bol de bouillie, Elaine réprima un frisson. « 32, déjà ?» Voilà qui augmentait vite. Certaines quêteuses du corps avides de promotion avaient dû décider que la garde rapprochée était un bon tremplin. D'accord, ces femmes ne pouvaient pas être de service jour et nuit, mais 100, quoi qu'en dise Birgit, ça faisait un peu beaucoup. Mais la championne ne voulait pas en démordre.
« Capitaine, dites au premier clerc qu'il peut entrer. »
fit Elaine en guise de conclusion. Mais Lars se fendit d'une révérence et battit en retraite. Se levant, Elaine le rejoignit devant les portes ornées de lions sculptés et lui posa une main sur le bras.
« Encore merci de m'avoir sauvé la vie, capitaine. »
dit-elle d'un ton vibrant de reconnaissance. Le rustre se permit un sourire arrogant, face à elle. Les deux gardes du corps regardèrent droit devant elle, et leurs compagnes, dans le couloir, eurent la même réaction. Quand Elaine se retourna, elle vit qu'Avienda la dévisageait presque aussi froidement qu'elle avait considéré Mellard. La différence, c'était de l'amusement. Elaine soupira, puis elle approcha de sa sœur, se pencha, la prit par la taille, et lui parla à l'oreille. Si elle se fiait aux membres de sa garde rapprochée, elle n'osait quand même pas tout leur confier. De peur qu'elle le répète.
J'ai dit ça parce qu'une servante passait, Avienda. Les femmes jacassent encore plus que les hommes. Plus les gens penseront que cet enfant est de Doyline Mellard, et mieux ça vaudra. Si nécessaire, je le laisserai me pincer les fesses. Je comprends,
souffla Avienda. Elle baissa les yeux sur son assiette, où elle semblait soudain voir autre chose que des œufs au pruneau, ce qui ne l'empêcha pas de s'y attaquer de nouveau. Maître Nori proposa son mélange habituel, de rapports sur les affaires administratives du palais, de compte-rendu des missives de ses divers correspondants étrangers et d'informations glanées auprès de marchands, de banquiers et d'autres professionnels qui exerçaient au-delà des frontières. Cela dit, sa première nouvelle se révéla de loin la plus significative pour Elaine, même si elle n'avait rien de passionnant.
« Les deux plus gros banquiers de la ville sont coopératifs, madame, »
annonça-t-il. Son éternel dossier de cuir serré contre la poitrine, Nori jeta un coup d'œil en coin à Avienda. Au fil du temps, il ne s'habituait toujours pas à sa présence tandis qu'il faisait son rapport. Idem pour les gardes du corps. Avienda lui sourit, le faisant sursauter.
« Maître Offlay et maîtresse Anscale étaient d'abord hésitants, mais ils connaissent aussi bien que moi le marché de la lin. Je n'irai pas jusqu'à dire que leurs coffres vous sont désormais ouverts, mais j'ai fait en sorte que 20 000 couronnes d'or soient transférées dans ceux du palais, et d'autres suivront si besoin est. »
« Informez-en, Dame Birgit. »
dit Elaine, presque nonchalante. En réalité, elle était soulagée. Birgit n'avait pas encore engagé assez de nouveaux gardes de la reine pour défendre une mégalopole comme Kemlin, et encore moins pour d'autres missions. Mais la fille héritière ne pouvait pas espérer recevoir de revenus de ses domaines avant le printemps, et les mercenaires coûtaient les yeux de la tête. Grâce à cet argent, elle ne les perdrait pas faute de soldats avant que Birgit ait enrôlé assez d'hommes pour les remplacer.
« Autre chose, maître Nori ?»«
Je crois qu'il faut donner la priorité absolue aux égouts, madame. Les rats s'y reproduisent aussi vite qu'au printemps, mais... »
Nori mélangeait tout selon ce qu'il jugeait important ou pas. Alors qu'une semaine seulement s'était écoulée depuis l'événement, il semblait s'en vouloir à mort de n'avoir toujours pas appris qui avait libéré Elenia et Nayan. À part ça, le prix des céréales augmentait sans cesse, comme celui de tous les produits alimentaires, et il devenait évident que les réparations du toit du palais dureraient plus longtemps et que leur coût dépasserait la première estimation des maçons. Mais les produits alimentaires augmentaient tous les hivers, et les devis des maçons se révélaient toujours sous-évalués. Même si les derniers échos de Brahim la nouvelle dataient de plusieurs jours, il semblait bien que les frontaliers se contentaient de rester où ils étaient, ce que Nori avait du mal à comprendre. N'importe quelle armée, et particulièrement d'une telle taille, aurait déjà dû être en train de piller les campagnes environnantes. Même si elle partageait la perplexité du premier clerc, Elaine se réjouit qu'il en soit ainsi. Pour l'instant, en tout cas. Venue du Kaerien, des rumeurs prétendaient que des Aes Sedai avaient juré allégeance à Rand, de quoi justifier en partie les inquiétudes d'Elaine. Cela dit, il semblait peu vraisemblable que des sœurs aient fait une chose pareille. Pour Nori, c'était l'information la moins importante. Mais Elaine ne partageait pas cette opinion. Rand ne pouvait pas s'offrir le luxe de se mettre à dos les sœurs qui soutenaient Egwen. En fait, il ne pouvait se mettre à dos aucune Aes Sedai. Pourtant, il semblait très doué pour y arriver. Remplaçant Alwyn Nori, Rehan Arfor entra, salua les deux gardes du corps en passant et sourit chaleureusement à Avienda. Si la première servante avait un jour eu des doutes, en entendant Elaine parler de Layel comme de sa sœur, elle ne les avait jamais montrés. Et aujourd'hui, elle semblait approuver sans réserve. En dépit de ses sourires, son rapport fut beaucoup plus inquiétant que celui du premier clerc.
« John Skellit est appointé par la maison Arone, madame. »
annonça Rehan, l'air sinistre.
À deux reprises, on l'a vu accepter une bourse de la main d'hommes qui servent cette maison. Hélas, Esther Noram aussi est à la solde de quelqu'un. Elle n'est pas du genre à voler, pourtant, elle cache plus de 50 couronnes d'or sous une latte du parquet de sa chambre. Et hier, elle en a ajouté 10.
Faites comme avec les autres,
dit Elaine, amère. Jusque-là, Rehan Arfor avait démasqué 9 espions, avec une absolue certitude. Pour 4 d'entre eux, elle ignorait encore le nom du commanditaire. Qu'il y ait des traîtres parmi le personnel aurait suffi à énerver Elaine, mais le barbier et la coiffeuse, c'était pire que tout. Les deux avaient été au service de sa mère. Pourquoi n'avait-il pas pu reporter leur loyauté sur son héritière? Quand Rehan confirma qu'elle ferait comme avec les autres, Avienda eut une grimace dégoûtée. Mais renvoyer les espions n'aurait servi à rien, quant à les tuer, comme le suggérait Layel. Dans les deux cas, ils auraient été remplacés par de nouveaux traîtres non identifiés.
Un espion joue dans la main de tes ennemis, tant que tu ne l'as pas démasqué,
avait dit un jour Morgaz.
Après, il devient ton outil.
Quand on identifie un espion, il faut l'emmitoufler dans des langes et le nourrir à la petite cuillère.
Ce conseil-ci était de Tom Merilyn. Les hommes et les femmes qui avaient trahi Elaine ne sauraient plus, désormais, que ce qu'elle voulait bien qu'ils sachent. Et ce ne serait jamais la vérité, bien entendu. Un peu comme le nombre de recrues qu'annonçait Birgit.
« Et notre autre souci, maîtresse Arfor ?»«
Rien de nouveau, madame, mais j'ai de l'espoir. »
L'air plus sinistre que jamais, la première servante répéta.
« Oui, j'ai de l'espoir. »
Après Rehan, Elaine reçut 2 délégations de marchands. D'abord un assez grand groupe de Candoriens, reconnaissables à leurs anneaux d'oreilles incrustés de pierres précieuses et à la chaîne de la guilde qui barrait leur poitrine, puis une demi-douzaine d'Ilianiens, aux tenues sombres rehaussées par de discrètes broderies. Pour ses audiences, Elaine choisit une des plus petites salles de réception. Ici, les tapisseries flanquant la cheminée représentaient des scènes de chasse, pas le lion blanc, et les lambris n'étaient pas sculptés. Bien qu'il se soit agi de marchands, pas de diplomates, certains s'offusquèrent qu'Elaine aurait offert seulement du vin, et qu'elle n'ait pas bu avec eux. Candoriens ou Ilianiens, ils regardèrent avec de grands yeux les 2 gardes du corps, qui se campèrent de chaque côté de la porte. Une réaction étrange, sauf s'ils étaient tous sourds et n'avaient jamais entendu parler de la tentative d'assassinat. 6 autres gardes se postèrent dans le couloir. Dès qu'ils écoutaient Elaine un peu moins attentivement, les Kandoriens étudiaient Avienda du coin de l'œil. La première surprise passée, les Ilianiens évitèrent plutôt de la regarder. À l'évidence, tous ces hommes et ces femmes trouvaient lourde de sens la présence du Nayel, même s'ils restaient assis dans un coin sans desserrer les dents. Les deux groupes étaient en quête de la même chose. Avoir l'assurance qu'Elaine ne désobligerait pas le dragon réincarné, au point qu'il envoie ses armées et ses aïels dévaster le royaume d'Andorre. Par crainte que ça nuise au commerce, bien entendu. Prudent, ces marchands ne mentionnèrent pas que les aïels et la Légion du Dragon campaient à quelques lieues de Kemlin. Optant pour la subtilité, ils s'enquirent des plans d'Elaine, à présent qu'elle avait fait retirer des murs de la capitale les étendards du dragon et ceux de la lumière. Elaine les gratifia de sa réponse standard. L'Andorre s'allierait avec le dragon réincarné, ça coulait de source, mais ne deviendrait jamais une de ses conquêtes. En conclusion, les marchands souhaitèrent longue vie et bonne santé à la future reine, dont ils soutiendraient la revendication au trône. Laissèrent-ils entendre, sans entrer à aucun moment dans les détails. Si elle échouait, ils ne tenaient pas à être bannis d'Andorre par la nouvelle souveraine. Quand les Ilianiens se furent retirés, Elaine ferma les yeux un moment et se massa les tempes. Avant le repas de midi, elle devait encore recevoir une délégation de verriers. Après, 5 autres groupes de marchands ou d'artisans l'attendraient. Une journée très chargée avec, hélas, son lot de platitudes et de déclarations hypocrites. Ninévé et Merilil étant partis, Elaine devrait aussi donner un cours aux régentes des vents dans la soirée. Une corvée pire que la plus ennuyeuse rencontre avec des marchands. Avec un peu de chance, tout ça lui laissera quelques minutes pour étudier les terrains gréales rapportés des boudards, avant que ses yeux se ferment tout seuls de fatigue. Quand Avienda devait la porter jusqu'au lit, c'était embarrassant, mais que faire? Pour tout y caser, une journée n'avait pas assez d'heures. Les verriers ne seraient pas là avant un moment. Pourtant, Avienda interdit à sa sœur de jeter un coup d'œil sur les artefacts des boudards.
« Birgit t'a fait un serment ?»
demanda Elaine, tandis que sa sœur la traînait dans un escalier étroit. 4 gardes ouvraient la marche, les autres la fermant. Toutes ces femmes s'efforçaient d'ignorer ce qui se passait entre leur protégé et Avienda. Encore que... Rosaria Domanche, une solide quêteuse du corps aux yeux bleus et aux cheveux blonds assez rares chez une terrienne, semblait afficher un petit sourire.
« Ai-je besoin de ta championne pour savoir que tu ne dors pas assez et ne prends jamais un peu d'air frais ?»
répliqua Avienda.
« Il faut que tu t'aères un peu. »
Dans la promenade flanquée de colonnes, l'air était plus que frais, presque glacial, malgré le soleil approchant de son zénith. Un vent tout aussi vif tourbillonnant entre les colonnes, les gardes prêtes à protéger la fille héritière d'une attaque de pigeons durent retenir d'une main leur chapeau à plumes. D'humeur contrariante, Elaine ne consentit pas à ignorer le froid.
« Alors c'est Dailéline qui t'a parlé ?»
marmonna-t-elle en grelottant. Selon Dailéline, une femme enceinte avait besoin de longues promenades quotidiennes. Fille héritière ou non, avait-elle rappelé à Elaine, elle n'était pour l'instant que la haute chair de la maison Tracande. Si elle entendait s'entretenir avec celle de la maison Taravine, elle devrait accepter de le faire en arpentant les couloirs du palais. Une condition non négociable.
« Monaël a eu 7 enfants, »
dit Avienda.
C'est elle qui m'a encouragé à te faire prendre l'air. »
Sans rien de plus que son châle sur les épaules, l'aïel ne semblait pas sentir le vent. Mais dans son peuple, on était aussi insensible aux éléments que les Aes Sedai. Les bras enroulés autour du torse, Elaine grogna de mécontentement.
« Cesse de bouder, ma sœur !»
fit Avienda. Elle désigna la cour d'une des écuries, tout juste visible, au-dessus des toits de tuiles blanches.
« Regarde, Réan Corly est là pour voir si Merilil Cerndevin veut revenir. »
Le train de lumière verticale familier apparut dans l'air, se mit à tourner sur lui-même et s'élargit jusqu'à former un passage de 10 pieds de large sur autant de haut. Elaine plissa les yeux pour mieux voir Réan. Bon sang, elle ne boudait pas. Avait-elle eu raison d'apprendre le voyage à Réan alors que la tricoteuse n'était pas encore une Aes Sedai? Une question délicate, mais aucune autre sœur ici n'était assez puissante pour ouvrir un portail. Si les régentes des vents avaient droit à une formation, au nom de quoi aurait-on pu la refuser aux membres de la famille? En outre, Elaine ne pouvait pas tout faire seule. Depuis qu'elle avait appris à ignorer la chaleur et le froid, y avait-il eu un hiver aussi rude? À la grande surprise d'Elaine, Merilil, son manteau sombre couvert de neige, franchit le portail, suivi par les gardes casqués partis avec elle 7 jours plus tôt. Pour rester poli, Zaïda et les régentes des vents s'étaient montrées très déplaisantes au sujet de cette disparition. Mais la sœur grise avait en réalité sauté sur la première occasion de leur échapper un moment. Chaque jour, il avait fallu ouvrir un portail, au cas où elle voudrait revenir. S'il avait fallu parier,
Elaine aurait dit qu'on ne la reverrait pas avant au moins 10 jours de plus, et elle se serait trompée. Alors que le dernier des 10 gardes en manteau rouge arrivait dans la cour, la mince petite sœur grise mit pied à terre, tendit ses rênes à une fille d'écurie et fila vers l'entrée du palais.
« J'adore prendre l'air !»
dit Elaine en se retenant à grand-peine de claquer des dents.
« Mais si Merylil est de retour, je dois redescendre. »
Avienda arqua un sourcil, comme si elle ne gobait pas le prétexte. Pourtant, elle fut la première à repartir vers l'escalier. Le retour de Merylil était important. Pour revenir si vite, elle devait avoir de très bonnes ou de très mauvaises nouvelles. Quand Elaine et Avienda entrèrent dans le salon, suivis par 2 gardes du corps qui se postèrent près de la porte, Merylil les attendait déjà. Son manteau trempé posé sur un dossier, ses gants glissés à la ceinture, elle n'aurait pas souffert d'un petit coup de brosse. Les yeux cernés, elle semblait aussi épuisée que la fille héritière. Dans le salon, la sœur n'était pas seule. Près de la cheminée, une main sur le manteau, Birgit la regardait pensivement. Comme si elle voulait imiter Ninevée, la championne tenait dans sa main libre sa longue natte blonde. Aujourd'hui, elle portait un pantalon ample vert foncé, sur une courte veste rouge. Une combinaison de couleurs qui piquait un peu les yeux. Son chapeau à la main, le capitaine Mellard salua bien bas la future reine. Bien qu'il n'ait rien à faire dans le salon, elle ne le congédia pas et le gratifia même d'un sourire chaleureux. Très chaleureux, en fait. La jeune servante rondelette qui venait de poser un plateau sur une commode sursauta, regarda Mellard, les yeux ronds, puis se souvint de faire une révérence avant de se retirer. Elaine afficha son sourire jusqu'à ce que la porte se soit refermée sur la fille. Tout ce qui pouvait protéger son bébé était bon à prendre. Sur le plateau, une carafe de vin chaud, pour les autres, et une tasse d'infusion, pour Elaine, attendaient le bon vouloir du petit groupe.
« J'ai eu beaucoup de chance »,
annonça Merylil une fois assise, un gobelet de vin à la main. Du coin de l'œil, elle regarda Mellard. Elle était au courant qu'il avait sauvé Elaine, mais la rumeur sur sa paternité était née après son départ.
« Réan avait ouvert son portail à moins de 2 lieues des frontaliers. Depuis leur arrivée... ils n'ont pas bougé. Si on n'était pas en hiver, la puanteur du crottin et des latrines serait insupportable. Tu avais raison, Elaine. Les 4 dirigeants sont là, dans des camps séparés par moins 1 lieue. Chacun commande une armée. Les soldats du Chiennard, je les ai trouvés le premier jour. Depuis, j'ai passé le plus clair de mon temps à parler avec Eassar et les 3 autres chefs. Chaque jour, on se retrouvait dans un camp différent. Tu as consacré un peu de temps à regarder autour de toi, j'espère.
Demanda respectueusement Birgit. Elle faisait montre de révérence envers toutes les Aes Sedai, à part la sienne.
« Combien de soldats ? J'imagine que tu n'as pas pu faire un compte précis. »
intervint Mellard, comme s'il l'espérait presque. Pour une fois, il ne souriait pas.
« Tout ce que tu as vu pourrait être intéressant, cela dit. »
continua-t-il.
« S'ils sont nombreux, ils risquent de crever de faim avant de pouvoir menacer Kemlin. Sans nourriture ni fourrage, la plus grande armée du monde n'est qu'un ramassis de morts vivants. »
Le capitaine éclata de rire. Dans son dos, Birgit le foudroya du regard, mais Elaine lui fit signe de ne pas broncher.
« En matière de nourriture, ce n'est pas l'abondance, »
répondit Merylil, le dos bien droit malgré son épuisement.
« Mais ils sont loin de la famine. Moi, je ne compterai pas sur ça pour les vaincre. »
Après de courtes vacances loin des Hata Admirée, les grands yeux de Merylil pétillaient de nouveau. Équanimité d'Aes Sedai ou non, elle avait décidé de ne pas apprécier Doilin Mellard, quelle que soit la vie qu'il avait sauvée.
Quant au nombre, ils sont un peu plus de 200 000, je dirais. À part leurs officiers, et encore, je doute que quelqu'un puisse être plus précis que ça. Même le ventre creux, ça fait beaucoup d'hommes.
Sans se troubler sous les regards de la Aes Sedai, Mellard haussa les épaules. Merylil ne lui jeta plus un coup d'œil, et l'ignora avec le plus grand naturel du monde, comme s'il était devenu un meuble.
Elaine, 10 sœurs les accompagnent, même s'ils font un gros effort pour le cacher. Pas des partisanes des Gwen, je crois. Mais peut-être pas non plus d'Elaïda. Beaucoup de sœurs semblent avoir décidé de rester à l'écart, jusqu'à ce que les choses s'arrangent à la tour.
La sœur grise soupira, pas de fatigue cette fois. Avec une moue dépitée, Elaine posa sa tasse d'infusion sur un guéridon. Les cuisinières n'avaient pas cru bon d'ajouter un petit pot de miel, et elle n'aimait pas les boissons amères.
Que veulent ces dirigeants, Merylil ?
Avec 10 sœurs dans ses rangs, cette armée était 10 fois plus dangereuse, surtout pour Rand. Non. Pour n'importe qui.
Ils n'attendent pas dans la neige pour le plaisir.
La sœur grise écarta les mains.
À long terme, je ne peux pas dire grand-chose. À court terme, ils veulent te rencontrer aussi vite que possible. Dès leur arrivée à Abraham la Nouvelle, ils ont envoyé des messagers à Kemlin,
mais avec l'hiver, ils n'arriveront pas avant au moins une bonne semaine. Tenobia du Saldaïa a laissé échapper, ou fin de laisser échapper, qu'ils savent que tu as des liens avec une certaine personne qui les intéresse aussi. J'ignore comment, mais ils sont informés que tu étais présente à Falm lors de certains événements.
Mellar plissa le front de perplexité, mais personne n'éclaira sa lanterne.
Je n'ai pas parlé du portail à cause de ses sœurs, mais j'ai promis de revenir très vite avec une réponse.
Elaine échangea un regard avec Birgit, qui haussa elle aussi les épaules, mais pas pour exprimer du dédain ou une quelconque indifférence. Le plan qui consistait à utiliser les frontaliers pour influencer les concurrentes d'Elaine avait toujours souffert d'une faiblesse. Comment approcher des rois et des reines alors qu'elle était toujours la haute chère de la maison Trakand et la fille héritière d'une défunte reine? Le haussement d'épaules de Birgit signifiait qu'il n'y avait plus de faiblesse. Mais comment les frontaliers avaient-ils appris ce que si peu de gens savaient? Et s'ils étaient au courant, qui d'autre l'était aussi? Coûte que coûte, elle protégerait son enfant à naître.
Tu accepterais de repartir sur le champ, Merylil?
La sœur grise hocha la tête avec enthousiasme. Pour échapper encore un peu aux régentes des vents, elle était prête à tout, y compris braver la pire puanteur.
Alors nous allons partir ensemble. S'ils veulent me voir très vite, aujourd'hui les satisfera.
Ces gens en savaient trop pour qu'elle ait une tergiverse. Rien ne devait menacer son bébé. Rien du tout.